Eh bien, bonsoir à vous. Je trouve devant mes yeux les noms de gens très compétents et je doute que je vais leur apprendre quelque chose. Hein. Voilà. Alors, excusez-moi si je vous apprends rien, vous irez prendre une tisane et puis, bon. Alors, puisque la série de cette année porte sur le chant des psaumes dans les liturgies chrétiennes au cours de l'histoire, j'avais prévu de présenter d'abord le texte des psaumes et d'expliquer pourquoi, au long de l'histoire, les communautés juives, puis chrétiennes, se sont attachées à la prière des psaumes. Alors, premièrement, les psaumes, pourquoi les juifs et les chrétiens sont attachés à ces textes. La Bible a rassemblé 150 prières qui ont été polies par la piété du peuple, affrontées à des situations que parfois nous ne revivons pas, par exemple l'intronisation d'un roi, quoique nous pensons au Christ qui est fait Seigneur, ou une autre situation, le retour victorieux d'une bataille, mais nous pensons aussi aux victoires que nous avons remportées sur telle difficulté, sur telle querelle, sur tel découragement. Et puis, les psaumes font allusion à des situations beaucoup plus communes. À toute période, en effet, on se demande la grande question du mal. Pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi des justes connaissent le malheur? À toute période, on admire la création. À toute période, on trouve que la loi de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà. À toute période, on admire, on a, avec les psaumes, des prières qui conviennent à toutes nos situations. Ce recueil des 150 psaumes, qu'on appelle psautier, est intitulé en hébreu le livre des louanges. C'est un peu surprenant parce que plus de 50% du texte est fait de supplications. Il faut quand même comprendre que lorsqu'on vit des événements même douloureux en alliance avec Dieu, on fait la louange de Dieu, on dit qu'il a une place dans nos vies. Je pense en particulier au psaume 22, quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il ne dit pas « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Il dit d'abord « Mon Dieu, toi qui tiens une place énorme dans ma vie. » Et c'est déjà une louange. Alors, juifs et chrétiens prient à partir de ce recueil, donc à partir de prières dont ils héritent. Il me semble important de souligner cet aspect car je connais un certain nombre de gens qui disent que seules les prières qui sortent spontanément du cœur sont des prières sincères. À l'encontre de cela, je vais dire quatre idées. Premièrement, la prière des gens d'autrefois est toujours d'actualité, car l'homme reste l'homme. Qu'il soit nomade ou urbain, qu'il vive au 8e siècle avant Jésus-Christ ou au 21e siècle après, qu'il soit berger à la campagne, qu'il soit ouvrier en ville, il est toujours un être qui connaît des joies, des peines et qui se pose des questions. Alors, la prière des aînés juifs, qui exposent à Dieu leurs joies, leurs peines et leurs questions, au 5e siècle avant Jésus-Christ, peu importe, convient aux gens d'aujourd'hui qui connaissent les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes questions, les mêmes difficultés. Deuxième idée. Les psaumes sont dans la Bible, c'est-à-dire que ce sont des prières que l'homme doit dire à Dieu, mais que Dieu confie à l'homme. C'est la parole de Dieu. Dieu dit comment il convient de lui parler, et puisque Dieu nous dit comment il convient de lui parler, cela relativise la prétention à être spontané. C'est Dieu qui nous dit comment lui parler. Troisième idée, la prière des autres. dire la prière des autres, c'est avoir un lien de communion avec les personnes, avec les autres. Parmi tous ceux qui ont prié et qui prient les psaumes, il y a d'abord Jésus. Il y a nos pères dans la foi et il y a nos contemporains. Donc, si nous prions les psaumes, nous entrons en communion avec Jésus. Nous avons l'immense honneur de mettre sur nos lèvres la prière même de Jésus. Et puis, si nous mettons les psaumes sur les lèvres de nos pères dans la foi, nous sommes en communion avec tous ces pères dans la foi qui ont traversé toutes sortes d'épreuves et qui ont été réjouis par l'alliance de Dieu. Et puis, si nous mettons les psaumes sur les lèvres de telle ou telle partie de l'humanité, eh bien, nous sommes en communion avec les gens d'aujourd'hui. Ce que la spontanéité ne fait pas spontanément, ne fait pas forcément. De sorte que, si je prie à partir de la prière des autres, je grandis en tant qu'être de relation. Peut-être que ma spontanéité n'aurait pas cette fonction-là, de me faire grandir en tant qu'être de relation. Si je prie sans les psaumes, le jour où je suis dans la joie, je risque d'être peu soucieux de ceux qui sont dans la tristesse. Et inversement, si je prie avec les psaumes, le jour où je suis dans la joie, je peux prier un psaume qui exprime de la douleur, et je serai en communion avec tous ceux qui sont dans la douleur. Écoutons une manière de chanter le psaume 130, qu'on dit d'habitude « Des profondices, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. » Seigneur. Qui disait cela? C'était peut-être le Christ qui dit ça. Des profondeurs, je crie vers toi. C'était peut-être les pères qui étaient prisonniers en Égypte ou déportés à Babylone. Et c'est peut-être les gens massacrés aujourd'hui. Et c'est peut-être ceux qui sont malades du Covid, etc. Quand je dis « je crie vers toi, Seigneur », je porte avec moi toute cette communauté. Voilà, l'intérêt de prier avec les psaumes, c'est d'être en communion avec tous. Je voudrais maintenant m'approcher un petit peu de l'aspect musical. Je voudrais expliquer pourquoi les psaumes sont normalement chantés, accompagnés de musique. Premièrement, ce sont des poèmes, avec des rythmes, des parallélismes, des redondances. Donc, puisqu'il s'agit de poèmes, eh bien, ils ne peuvent pas être énoncés autrement que comme des poèmes. Ils doivent forcément être exposés autrement qu'un raisonnement de saint Paul. Il leur faut un support un peu lyrique. C'est pourquoi les Bibles donnent, pour quasi tous les psaumes, un premier verset auquel on ne prête jamais d'attention parce qu'on ne le chante jamais, mais ce premier verset indique des mentions de musique. Exemple, on nous dit du chef de chœur, des fils de Corée, du recueil d'Azaph, sur l'air de à mi-voix, etc. Vous regarderez sur votre Bible, il est indiqué toujours un premier verset qui donne ce genre de renseignements. Et nous, nous ne chantons qu'à partir du verset 2. Donc les psaumes étaient chantés. Ils étaient accompagnés par des instruments à cordes pincées. Par exemple, dans le psaume 92, on nous parle de la lyre à 10 cordes, de la harpe, d'un murmure de cithare. Dans le psaume 57, on nous dit comment doit se passer la procession, les chantres devant, les musiciens derrière, et parmi les jeunes filles qui jouent des cymbales. Voilà. Et l'intérêt de la musique, c'est que ça favorise la mémoire. Voilà, les psaumes, il n'y avait pas de Bible, évidemment, imprimée, par conséquent, ils devaient être mémorisés. Et on sait bien que tout ce qui passe par le chant, c'est mémorisé. Moi, j'ai appris les tables de multiplication en chantant 2 fois 2, 4. Voilà. Deuxièmement, je voudrais dire qu'à l'époque des apôtres, un certain nombre de communautés comportaient des chrétiens d'origine juive qui connaissaient donc par cœur les psaumes. Paul encourage l'usage chanté des psaumes. Dans la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, il dit « Chantez le Seigneur avec des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. » Au temps de Paul, tous ne savaient pas lire, mais un certain nombre de psaumes étaient connus par cœur, comme nous, nous connaissons par cœur un certain nombre de prières. Dans les premiers siècles, on a aussi la mention que les psaumes sont chantés. Saint Augustin, dans ses Confessions au chapitre 33, dit ceci « Mon esprit est plus ardemment touché par ces saintes paroles lorsqu'elles sont chantées que si elles ne l'étaient pas. » Et devenu évêque, Saint Augustin a fait de multiples homélies sur les psaumes. Et puis ses collègues évêques en faisaient tout autant. Pourquoi on faisait des homélies sur les psaumes? Parce que dans les psaumes, il y a le grand portrait du Christ. On se souvient de Saint Luc chapitre 24, où Jésus explique aux disciples tout ce qui le concerne dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Mais on ne s'en tenait pas aux psaumes connus par cœur. Dans les assemblées chrétiennes des premiers siècles, les quelques personnes qui savent lire vont cantiler sur une estrade, sur un degré, en latin gradus. C'est pourquoi le psaume qui suit la première lecture à la messe s'appelle le psaume graduel, chanté sur un degré. La cantillation des psaumes par des chantres est construite le plus souvent de la manière suivante. Le chantre énonce une strophe et puis l'assemblée intervient par une antienne. Le chantre énonce la strophe suivante, l'assemblée reprend l'antienne. Et cette antienne est très importante. Voilà qu'on a dans un texte de Saint Jean Chrysostome, qui est peut-être du 5e siècle par là, et qui encourage à retenir l'antienne. Il dit en effet, « Si de la messe vous ne retenez qu'une seule chose, je souhaite que ça soit le refrain du psaume, parce que il vous servira de bâton pour marcher toute la semaine. Nous avons bien l'expérience que quand on a un air dans la tête, on le chante en permanence, voilà. Le refrain du psaume vous servira comme bâton pour marcher toute la semaine. Jusqu'au XVIe siècle, le chant des psaumes a épousé les manières de chanter des peuples. Alors, comment on chantait les psaumes dans les premiers siècles, ça, on ne le sait pas bien, sauf qu'il est probable que les cantilations de nos frères du Moyen-Orient chrétiens et même de nos frères du Moyen-Orient arabes cantilent à peu près la même chose, et les psaumes et le Coran. Voilà un deuxième extrait musical, c'est le psaume 2 de l'introïde de Noël. Le Seigneur dit à mon je t'ai engendré aujourd'hui. De Noël. Peut-être que les mélodies grégoriennes descendent des mélodies primitives. Alors, je m'avance dans le temps et j'arrive au XVIe siècle. Les réformateurs du XVIe siècle se sont aperçus que dans les églises, on chantait en latin et ne chantait que ceux qui savaient lire. Or, parce que le chant favorise la mémoire et que la foi s'imprime dans le cœur de ceux qui chantent les mots de la foi, et parce que le chant crée une communion des personnes autant que des voix, les réformateurs ont voulu faire chanter les fidèles. Et on sait que ils ont créé des écoles pour apprendre aux gens à lire non seulement la Bible, mais dans l'office pour chanter les psaumes. Pour atteindre ce but, il fallait un outil, et l'outil qui a marché, c'est le chant des psaumes, qui était pratiqué au culte et qui était fortement conseillé à la maison. En zone germanophone, Luther a composé beaucoup de chants inspirés de la Bible, mais pas délibérément des chants issus des psaumes. Mais en zone francophone a été façonné le psautier de Genève, la patrie de Calvin, qui fut appelé le psautier huguenot, quand la réforme a gagné d'autres régions francophones. Voilà le recueil du psautier français tel qu'il est édité récemment. La constitution de ce psautier huguenot est un moment capital de la réforme en France sous trois aspects. L'aspect religieux, évidemment, l'aspect littéraire et l'aspect musical. L'influence de ce psautier a passé les frontières. On connaît, paraît-il, plus de 1500 versions du psautier huguenot éditées hors de France. Ce psautier est le fruit d'un travail littéraire auquel se sont attelés Clément Marot, 1495-1544, qui produit des paraphrases rimées pour 49 psaumes. Il en restait donc 101 pour arriver à 150, et c'est Théodore de Bèze qui produit ces 101 psaumes. Tous les deux sont partis des poèmes bibliques, mais ils n'ont pas pu faire des traductions parce qu'il fallait aboutir à des strophes tout à fait parallèles qui ont le même nombre de vers, le même nombre de syllabes, qui comportent le même nombre de pieds, des rimes, etc. Donc ils n'ont pu faire que des paraphrases. Donc dans les recueils du psautier français, on lit psaume 1, psaume 23, mais si on compare le texte de la Bible et celui de ses paraphrases, on voit un décalage certain qui n'altère pas le sens, mais qui est exigé par la versification. Alors, je vais donner un petit exemple à partir du psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Notre version écuménique actuelle dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Et voilà comment Clément Marot paraphrase « Dieu, mon berger, me conduit et me garde. J'entends sa voix et vers lui je regarde. Il me fait paître en de verts pâturages, au long des eaux, sous la paix des ombrages. Et pour qu'en moi son amour s'accomplisse, il me conduit au sentier de justice. » Verset suivant, version écuménique. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Et voici la paraphrase de Clément Marot. « Quand il faudra marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je n'aurai point de peur en ma détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure, c'est ton bâton, mon Dieu, qui me rassure. » C'est magnifiquement beau, magnifiquement beau. Mais sans être fondamentaliste et sans tenir au mot à mot, on ne peut pas dire que c'est le texte de la Bible. Pour une raison très pratique que j'ai dite, il fallait le nombre de pieds, il fallait versifier des rimes, etc. Et puis il fallait aussi amputer le texte original quand il s'agissait d'un psaume long, car des psaumes qui ont 80 voire 176 versets ne peuvent pas être chantés dans un office où on doit se contenter de 4 ou 5 strophes. Le fait qu'il y ait un décalage entre le psaume de la Bible et le psaume paraphrasé ne me fait pas de problème théologique, pas du tout, parce que l'évangile est selon saint Marc, saint Matthieu, saint Jean, etc. Et pourquoi il ne serait pas selon Marot, selon Théodore de Bèze, selon Christine, selon Jean-Claude, etc. Voilà. Dieu associe l'homme à l'énoncé de sa parole, c'est la loi de l'Alliance. Les textes du psautier français ont évolué au cours des rééditions, notamment pour rajeunir des tournures devenues archaïques. La reformulation la plus récente est l'œuvre de la commission d'hymnologie de la Fédération protestante de France, réunie autour de M. Chapal. Cette commission travaillait dans les années 1970. Après avoir parlé un petit peu de l'aspect littéraire, j'en viens aux musiciens. Mais avant de parler du travail des musiciens qui ont travaillé sur les textes de Clément Marot et de Théodore de Bèze, je voudrais faire entendre sur quel arrière-fond ces musiciens ont travaillé. Je voudrais faire entendre comment on construisait des musiques pour des psaumes avant eux. Et alors, on va entendre le fameux Miserere d'Allegri, qui est écrit à 9 voix, et on se rendra compte, on se demandera si c'est possible à une assemblée habituelle de chanter des choses pareilles.
Thank you.
une manière de chanter le psaume 51, « Miséré, aie pitié de moi, Seigneur, ta bonté ». À propos de cette musique, c'était une chasse gardée des chœurs de la chapelle Sixtine qui ne voulaient pas diffuser leur partition. Et voilà que Mozart est allé à la chapelle Sixtine et il a écouté ça, et en sortant, il a écrit, il a retranscrit tout ça aisément. Maintenant, on va écouter le même psaume, Miséré, psaume 51, pris dans le psautier huguenot. Et on va comprendre tout de suite que le projet des musiciens français était de faire chanter les fidèles et non pas de faire des belles vocalises comme on vient d'en entendre. En charge de travail des littéraires, Loïs Bourgeois, 1510-1561, c'était un ami de Calvin, il a créé 85 mélodies. Claude Goudimel, qui travaille à Paris, à Metz, à Besançon, à Lyon. Claude Lejeune, qui a écrit 500 musiques sur des psaumes. La mission de ces gens-là, au départ, leur feuille de route, c'était d'écrire des mélodies qui permettent d'énoncer le texte par syllabes de longueur égale en n'utilisant que deux valeurs qu'on nommerait aujourd'hui la noire et la blanche, les brèves et les longues. Pour chez nous les catholiques, on avait adopté une ou deux de ces musiques-là et ça donne ceci, peuple, où s'avance le Seigneur, ou bien nous chanterons pour toi, Seigneur. Et puis, ils avaient pour mission d'écrire de la musique qui, chantable à l'unisson. Alors, quand on sait que ces gens avaient une virtuosité d'écriture formidable, lorsqu'on s'aperçoit qu'ils n'écrivent que des unissons, ils ont un esprit ascétique incroyable. Ils nous donnent une fameuse leçon d'humilité. Ils sont vraiment au service de l'Église. La diffusion de leur musique a été rapide grâce à l'imprimerie. Dans la seule année 1562, 30 000 exemplaires de leur psautier ont été mis en vente. Mais évidemment, ils étaient des virtuoses de l'écriture musicale, ça leur démangeait les doigts de faire de la polyphonie à quatre voix. La polyphonie n'était consentie que pour les réunions privées. Au temple, il ne fallait pas chanter qu'à l'unisson. Et alors, ils se sont mis à écrire des musiques à quatre voix, huit voix, avec des contrepoints ornés, destinés au chant à la maison. Selon l'expression de Claude Goudimel, ils étaient destinés à se jouir es maison, à se faire plaisir en famille. Donc, après avoir écrit des mélodies à l'unisson chantables par les assemblées, ils se sont mis à écrire aussi des compositions très savantes. Et c'est là qu'on voit bien la différence entre la musique liturgique et la musique sacrée. La musique liturgique est celle que les assemblées sans formation musicale peuvent faire dans leurs églises, et la musique sacrée est bâtie sur les mêmes textes liturgiques, mais demande des chanteurs très expérimentés, capables de faire de la polyphonie, de concerter avec des instruments, pour se jouir es maison, comme dit Goudimel. Et alors, les psaumes n'ont pas cessé d'être un support pour le travail de beaucoup de musiciens. Alors, on en trouve chez Vivaldi, chez Telemann, chez Bach, chez Mozart, et puis plus près de nous, Félix Mendelssohn, écrit une grande symphonie Réformation qui reprend le thème de « C'est un rempart que notre Dieu ». Ein feste Buch ist unser Herr. Et puis on connaît aussi de Florent Schmitt le psaume 47, et puis on connaît de Igor Stravinsky la symphonie des psaumes, etc. Voilà que ces psaumes ont inspiré bien des musiciens. Le cœur de l'homme demande de la musique pour s'exprimer devant Dieu. Voilà, j'ai parlé de la tradition protestante, je vais parler un petit peu de la tradition catholique. Dans le monde catholique, on a utilisé le texte latin de la Vulgate avec la numérotation que la Vulgate avait héritée de la traduction des Septante. Ce qui fait que dans votre Bible, il y a toujours un numéro et à côté, entre parenthèses, un autre numéro, souvent inférieur d'un numéro. Voilà. En tradition catholique, nous appelons le psaume 22, le Seigneur est mon berger. Les protestants l'appellent le psaume 23, par exemple. Voilà. Alors, nous pratiquons pas la paraphrase. Nous chantons le texte tel qu'il est dans notre traduction écuménique liturgique. Nous faisons comme Clément Marot, Théodore de Bèze, nous amputons les grands psaumes parce que nous ne pouvons pas aligner beaucoup de versets. On choisit les versets les plus adaptés à la fête ou à la lecture qui précède. À la messe, on chante un psaume toujours après la première lecture. Et ce psaume, il est bâti sur trois ou quatre strophes. C'est le fameux psaume graduel. Après la lecture où Dieu parle à son peuple, le peuple répond à Dieu en chantant le psaume. Il ne peut pas y avoir de meilleure réponse à la parole de Dieu qu'un psaume qui est lui-même parole de Dieu. Dieu a la délicatesse de nous donner les mots par lesquels il aime que nous lui répondions. Alors, au cours des trois années liturgiques, le dimanche, on cite 81 psaumes, soit en entier, soit par des versets choisis. De quelle manière sont réalisés ces psaumes ? Le plus souvent, un psalmiste chante les strophes et l'assemblée intercale une antienne entre les strophes. Parfois, quand toute l'assemblée dispose du texte, on invite l'assemblée à chanter le psaume. Alors, ou bien l'assemblée chante le psaume intégralement, ou bien elle le dialogue avec le psalmiste, ou bien elle réalise un dialogue entre deux parties de l'assemblée. C'est la pratique habituelle des moines. On va écouter des moines chanter en deux chœurs le psaume 46-47.
Oui. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet les nations, qui tient les peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son
chanter aussi des psaumes à l'entrée ou à la communion. Ça, c'est pour les chants des psaumes à la messe. Et puis, les psaumes sont utilisés chez les catholiques, mais pas seulement chez eux, dans ce qui s'appelle la liturgie des heures. Cette liturgie est issue de la pratique des moines. Les moines se sont donnés comme règle de prier toutes les 3 heures, soit 7 fois par jour. Ils prient un office des lectures, qu'on appelle parfois les matines. À 6 heures du matin, ils chantent les laudes, un mot qui veut dire louange, louange pour Dieu qui fait lever un soleil nouveau. 3 heures plus tard, ils chantent l'office de tierce, la troisième heure. 3 heures plus tard, ils chantent l'office de sexte, la sixième heure. 3 heures plus tard, l'office de nonne, la neuvième heure. Il est donc 15 heures. Et puis, 3 heures plus tard, l'office de vêpres, il va être 18 heures. Et puis après, les complies. Et, sachant que chaque office comporte en moyenne 3 psaumes, les moines chante au bas mot 21 psaumes par jour. Et puis dans leur office, les psaumes alternent avec l'écoute de lecture biblique. En fait, il n'y a que de la Bible dans la prière de la liturgie des heures. Mais voilà que ce projet de sanctifier les grands moments de la journée, s'il est possible qu'il soit rempli par des moines, il n'est pas possible qu'il soit rempli par des gens actifs, des laïcs qui ont des professions et qui n'ont pas la disponibilité des moines. Alors, pour permettre à ces gens-là de prier à la manière des moines, a été composé un livre qu'on appelle « Prière du temps présent ».« Prière du temps présent ». Et qui simplifie le grand programme des moines. au lieu d'avoir 7 offices par jour, il y a l'office du matin, du milieu du jour et du soir, et peut-être les complis. Et en fait, avec 3 psaumes le matin, avec 3 psaumes au milieu du jour, avec de nouveau 3 psaumes et 2 cantiques le soir, et les complis, on peut prier 11-12 psaumes par jour. Alors, écoutons des moines encore qui chantent, c'est les moines de Tamier qui chantent le psaume 5.
Je me tourne vers toi, Seigneur, pour ma part, tu es pour de ma voix. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte, entends ma voix qui m'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur.
Avec les psaumes de l'époque de la contre-réforme qu'on entendait tout à l'heure, eh bien, le souci là, c'est d'avoir des mélodies chantables à l'unisson par une assemblée. Le souci de ceux qui composent les musiques pour le chant liturgique, et le souci bien sûr de ceux qui chantent les psaumes, c'est de donner la priorité au texte sur la musique. La musique n'étant là que pour faire que le psaume ne soit pas banal, pour donner un peu de relief et de lyrisme au texte. Mais ce qui est prioritaire, c'est pas le plaisir de la musique, c'est la parole de Dieu, le texte. Écoutons encore un psaume, le psaume 99.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans la maigresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son peuple.
Tout ce que je voulais dire. J'espère que on deviendra de plus en plus amoureux des psaumes. On aimera prier avec les psaumes. Dans le texte qui introduit prière du temps présent, la liturgie des heures, il y a une belle expression que je vous confie pour terminer. Il est dit que quand l'Église chante les psaumes, on entend la voix de l'épouse qui parle à l'époux. Voilà. C'est l'Église qui reprend à son compte la prière même de Jésus et qui le lui dit. Voilà. C'est la prière de l'épouse qui parle à l'époux. Merci de votre attention. Merci. Ah.
Non, ça va.
Ah, c'est beau, ça.
Ça va.
Mendelssohn.
La musique sacrée. Mais je ne sais pas où. Quel disque c'est.
Aucune importance.
Je vois pas où il est là-dedans. Trésor de la musique sacrée, c'est quel disque c'est.
Oh, dans Gespin.
Chaque fois, il y a des fameux. Oui, c'est d'abord une petite conduite. J'avais tout préparé, mais je sais pas quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des pistes qui ont disparu.
J'avais annoncé Mozart, mais en fait c'était Mendelssohn, le psaume 41-42, comme un cerf athée cherche l'eau vive. Vous pouvez poser les questions les uns aux autres.
Oui.
Il y a des gens parmi vous bien plus compétents que moi.
J'en ai posé une par écrit, simplement, a-t-on une idée de la manière dont David Salomon ou Asaph psalmodiait ? David.
Voilà.
Est-ce qu'on a retrouvé et interprété les notations qu'on pouvait faire à l'époque?
Il n'y avait pas de notation.
On
ne pouvait pas.
Oui, est-ce que tu as entendu la question?
Est-ce qu'on a une idée de la manière dont c'était chanté? Dans nos Bibles, au verset 1, c'est marqué sur l'air de je ne sais pas quoi, sur l'air de je ne sais pas quoi. C'est tout ce qu'on sait. Hein. Mais peut-être que les traditions de nos frères du Moyen-Orient, chrétiens et musulmans, hein, découlent un peu des manières de chanter de leurs prédécesseurs. J'en sais rien, mais peut-être.
Hein. Mais bon, de toute façon, l'écriture de la Bible s'étend sur quand même plusieurs siècles, et il est probable que ça n'a pas toujours été chanté de la même façon.
Aussi.
Oui, mais il peut y avoir il peut y avoir même, on peut retrouver peut-être sur un plan archéologique des traces sur la manière dont on accompagnait des textes en chantant, aussi bien principalement dans la musique sacrée, mais aussi, il n'y a aucune recherche archéologique sur la manière dont on chantait à l'époque, non?
Ah, moi, je suis pas au courant de ça, moi.
Louis, bonjour et merci et bravo. J'aimerais savoir un peu, est-ce que tu sais comment Luther se positionnait par rapport au psaume? Tu m'entends, Louis?
Ah oui, j'entends
bien. Est-ce que les catholiques, à l'époque de Luther, chantaient les psaumes? Est-ce que le Concile de Trente on a parlé, parce qu'il semble quand même que Luther n'aimait pas trop les psaumes, mais je ne suis pas sûr du tout de mon fait, et que c'est plutôt Calvin qui a insisté là-dessus.
Voilà, moi j'avais lu que les chants composés par Luther étaient bien sûr d'origine biblique, mais
oui,
ils n'étaient pas d'origine psalmique forcément. Oui.
Oui. Et les catholiques, ils chantaient les psaumes
parce que la manière, le chant grégorien qu'on appelle maintenant le chant grégorien, s'est poursuivi comme ça à travers les siècles. Il a été sans doute modifié.
Non, je ne sais pas sur les fils. Tu vas voir la liste.
Oui.
Voilà. Mais sans doute que Luther, dans son monastère, il chantait les psaumes, oui.
Voilà, oui. Donc il les chantait. Oui.
Oh, bah, sans doute.
Il doit y avoir toute une tradition monastique qui existait au Moyen-Âge et qui s'est poursuivie ensuite dans toutes les églises occidentales.
Mmh. Ah oui, Luther n'aimait pas les psaumes.
En tout cas, l'Ancien Testament l'intéressait pas beaucoup, sinon, et c'est ça le problème, sinon qu'il y voyait le Christ.
Ah oui.
Donc dans les psaumes, on peut aussi lire le psaume par rapport au Christ.
C'est ce que dit Louis.
Mais à ma connaissance, je ne sais pas, je vois pas de psaume de Luther. Quoi.
Eh ben voilà.
Je vois des sermons sur les psaumes, mais chanter, non.
Ah, des mélodies de Luther,
c'est... Et puis Bach non plus, je pense pas que Bach ait fait et écrit une musique pour les psaumes.
Peut-être que Béatrice ou François.
Oui, j'aimerais bien savoir. Oui,
il en a intégré dans les cantates.
Mais il faut mettre le son, Béatrice.
Bonjour, voilà. Si, je crois, il me semble que Luther a aussi mis des psaumes en musique, mais beaucoup moins que les chorales. Sa participation vocale pour le culte, c'était surtout les chorales qui étaient des poèmes écrits par des poètes piétistes, donc ils ne sont pas des textes bibliques, hein, ce sont des genres de prières ou de réflexions religieuses écrits
par la phrase, poètes.
Mais il y a aussi des psaumes en musique, me semble-t-il. Hein.
D'accord.
Par contre, Bach, je n'ai pas d'idée. Moi aussi, parce qu'il avait ses librettistes pour les cantates, donc. Réfléchir à la question, je sais pas de question encore, on va essayer de répondre. Donc, j'avais une question un peu simple à laquelle vous savez certainement tous répondre. Bon, les psaumes, en général, on dit qu'ils ont été écrits par David ou Salomon aussi, je crois. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus? Qu'est-ce qui a vraiment écrit les psaumes qui sont dans la Bible?
Je peux essayer de répondre, quitte à beaucoup vous décevoir. Quant à l'existence de David et Salomon à l'heure actuelle, on n'est pas franchement sûr. Hein. Donc, encore moins de savoir ce qu'ils ont pu. Bon, la Bible, la plupart des choses ne remontent quand même pas plus loin que le 8e siècle avant Jésus-Christ. David, on le met généralement au 10e, donc c'est hors des périodes accessibles actuellement par l'exégèse ou par l'archéologie. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur ces aspects historiques, je conseille très fortement la lecture de Thomas Römer, et puis en lien avec l'archéologie d'Israël, Finkelstein. Il y a eu une émission récemment sur Arte, sur l'Arche d'Alliance, que certains d'entre vous ont peut-être vu, et qui effectivement replaçait des événements au 8e siècle et pas au 10e avant Jésus-Christ.
Et Louis, t'en penses quoi?
Moi, je pense que la tradition populaire, les psaumes, c'est sûrement des constructions populaires, hein. Pour donner un petit peu de crédit à ce qu'on avait construit, eh bien, on l'a mis sous le patronage d'un homme célèbre, David ou Salomon ou je sais pas qui. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire?
Je cherche, il doit y avoir un psaume qui parle des rives de Babylone.
Oui, 136.
Où on pense. Babylone, c'est déjà l'exil. Hein.
Oui, c'est encore plus tard.
Hein,
c'est...
Oui, oui.
Bon, je voulais conseiller ce livre. Je vais peut-être plutôt l'écrire dans le chat pour ceux qui s'intéressent aux aspects historiques. Je vais l'écrire dans le chat. Il fonctionne, oui.
135, c'est 137.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser à Louis?
Vas-y.
Voilà, alors si je puis m'exprimer, je pense que tout ce qu'on a entendu là, vraiment, c'est certainement beaucoup plus important que ce qui paraît aujourd'hui. Et je crois que le fait de redécouvrir un peu les cultures de l'ensemble des fois, des religions, tout ce qu'on voudra, je crois que c'est quelque chose de certainement très puissant pour réconcilier et ramener tout le monde ensemble. Bon, on peut pas dire que c'est catastrophique en ce moment, mais il y a toujours des tendances quand même. Il y a une peur parce que, étant donné que nous sommes appuyés sur des convictions qui sont, je dirais, je me permettrais de dire, têtues réglementaires, on se demande parfois si la foi c'est quelque chose qui peut suivre l'instinct ou des choses comme ça. Et je pense que les discussions que nous avons entendues aujourd'hui vont vraiment dans le sens, dans le bon sens à mon avis, de remettre tout à plat et de se réunir autour de mêmes principes plus simples. Voilà. Et je voudrais remercier Louis Gros-Lambert de son travail, parce que ça va tout à fait dans ce sens-là. Hein? Ainsi, la présence de Louis ici est tout à fait... on peut remercier de s'être déplacé, d'avoir travaillé sur toutes ces choses que nous avons besoin de savoir. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire.
Merci.
Oui, c'est vraiment une grande joie de redécouvrir les psaumes et puis les mises en musique assez extraordinaires à travers les siècles, comme tu viens de nous les présenter, et de découvrir tout cet aspect, enfin de découvrir ou de redécouvrir ou d'apprécier encore plus tout cet aspect de prière qui est tellement manifeste quand on va d'ailleurs à un office monastique. Enfin, je pensais tout particulièrement à Chambroche, mais aussi enfin à n'importe quel office monastique où on perçoit bien l'importance des psaumes.
L'importance des psaumes, je redis la phrase par laquelle j'avais terminé, c'est l'épouse qui parle à l'époux. Eh ben, je trouve que on peut rien trouver de...
Oui, j'aurais une question à poser pour avoir déjà suivi une formation sur les psaumes avec moi. Tu sens des critiques des fois sur l'accompagnement musical par rapport aux paroles du psaume. Moi, je pense que ça, tu ne nous as pas fait écouter, mais je me souviens une fois que tu nous avais fait écouter des accompagnements musicaux qui mettaient guère en valeur les paroles.
Ah oui. Oui, selon la musique, évidemment, ben, y a des mots qui sont mis en évidence, qui sont mis en valeur. D'ailleurs, quand on écoutait l'introït par les moines, eh bien, l'introït avec le De Profundis, le psaume 52, eh bien, exaudi, on entendait dans cette longue, comment est-ce qu'on dit, dans cette longue mélodie là, on entendait la supplication. Voilà, le musicien, il s'était, enfin le musicien, si on peut parler comme ça, parce que il s'est appliqué à donner du relief à ce mot-là. Et ben voilà, c'est ça qui est quand même important. N'empêche que je vais régulièrement à la Pierre qui vire, et le chef de chœur là-bas, il dit nous, ce qu'on aime, c'est débiter le texte comme ça, sans, d'une manière un peu nivelée. Oui, c'est rigolo. Enfin, il y a plusieurs écoles, quoi.
J'avais éventuellement une question, mais je ne sais pas si on peut y répondre. Bon, quand il m'arrive d'assister ou de participer à une messe chez les moines de Chevroche, bon, quand on chante des psaumes, bon, je suis toujours émerveillée par ce que j'entends, j'essaie de chanter, mais je ne sais jamais à quel moment il faut changer de note.
Ah, oui, oui.
Tout le monde a l'air très au courant. Alors, est-ce que ce sont les syllabes accentuées? Est-ce que ce sont les mots importants? Bon, je me sens toujours un peu bête parce que je suis tout le monde, mais j'ai l'impression d'être vraiment la pauvre protestante complètement à côté de la plaque. est-ce qu'il y a un règlement? Enfin, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de savoir à quel moment il faut changer d'intonation?
Il y a une convention qui est imprimée sur le psautier liturgique. Hein, et qui fait que on voit qu'il y a des syllabes qui sont soulignées, et si au milieu d'une ligne il y a une syllabe soulignée, c'est sur cette syllabe là qu'on change de note.
On monte ou on descend?
Oui.
Ah ben ça, des mélodies à 10 000.
J'avais bien compris au bout de certaines messes, mais parfois c'était pas comme ça et tout le monde faisait quand même.
Oui. Mais
c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a aussi la mémoire de ce qu'on fait d'habitude qui doit agir.
Et alors, les syllabes soulignées sont, on les trouverait spontanément, hein, n'importe qui les trouverait. C'est le français qui le veut. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. on voit bien où sont les accents. Mais supposons que le musicien n'ait pas souhaité qu'on change de note en cours de route, et ben on ne tient pas compte de la syllabe soulignée. Si on lui a édité un texte avec des syllabes soulignées, pour le cas où il voudrait qu'on change de note en cours de route.
Au niveau des syllabes accentuées, c'est un peu ce que Goudimel a essayé de faire dans ses fameux vers mesuralantiques. Oui. C'est très naturel parce que les syllabes accentuées sont plus longues. Hein. Donc quand on fait ça avec un chœur, il suffit de leur faire dire le texte et
voilà,
on met en place. Voilà.
On voit bien que c'est le texte qui pilote et non pas la musique.
Par contre, quand c'est polyphonique et que les textes sont un peu décalés, bon.
Ah oui.
Comment, qu'est-ce que tu as cherché à faire pendant toutes les antiennes que tu as écrites? Comment tu as essayé de faire ça? Je pense que tu as fait aussi des mélodies de psaumes.
Oui. Il y a 4-5 ans, je ne sais pas, eh bien, nous avons eu une nouvelle édition avec des antiennes nouvelles. Donc, nous ne pouvions pas chanter, nous n'avions pas de musique disponible pour chanter ces antiennes. Donc, je me suis attelé à écrire des musiques. Voilà. Ce que j'ai cherché à faire, c'est sortir d'un style qui voudrait que... qui voudrait scander la phrase de façon je voulais quelque chose de plus coulant, de plus, voilà, c'est ça que je cherchais à faire quand j'ai écrit mes antiennes. Bon, j'ai pas inventé la lune, hein. Il y a un certain nombre de ces antiennes dont je ne rougis pas du tout, puis il y en a d'autres pour lesquelles je voudrais bien qu'elles n'aient pas existé.
Oui, dans la prière des heures, l'ordre des psaumes a été fait comment? Le choix des psaumes?
Alors, le choix des psaumes, puisque le matin ça s'appelle l'aude, les psaumes du matin sont assez souvent des psaumes de louange. Hein. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rassemble son peuple, etc. C'est béni soit, c'est souvent la louange. Au milieu du jour, nous sommes l'office du milieu du jour, il est un peu calculé sur la chronologie de la Passion. Il faut regarder dans nos textes de nos récits de la Passion. Jésus est arrêté le soir, il comparaît à 9h du matin, il fait je ne sais pas quoi à midi et il meurt à 3h. Donc quand on fait la prière du milieu du jour, il y a souvent des allusions à des psaumes de souffrance. Et il me semble que ça colle assez bien avec le fait de prier au milieu du jour, au milieu de notre... parcours de travail, au milieu de, on écoute aussi des informations, il y a des tragédies ici ou là, voilà, souvent les psaumes du milieu du jour, ils sont connotés avec la passion. Sauf que, au milieu du jour, il y a souvent un extrait du psaume 118-119, vous savez, le fameux psaume de 176 versets, qui fait l'éloge de la loi de Dieu. Donc, on a à la fois, quand on fait notre pause au milieu du jour, on a les yeux ramenés sur la loi de Dieu et puis un petit peu sur la passion. Le soir, c'est plutôt suppliant. Et puis, compli, ça cherche quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et demeure à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, c'est l'apaisement. On peut peut-être dire comme ça. Moi,
j'en dirais pas. Je comprends, il y a la personne.
Et il y a beaucoup de moines encore qui pratiquent les sept offices. Parce que bon, pour ce que j'en connais à Chauvroche, il y en avait 6. Au foyer spirituel, il y en aura 5. Chez les dominicains, il y en a 3.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Et par exemple, à la Pierre qui vit, ils ont supprimé l'office de la nuit. Parce que les moines étant trop âgés, il y avait trop de gens qui restaient au lit au lieu de venir à l'office. Et alors, ils le font juste après les complis. De sorte que les voilà. Mais la distribution des psaumes, varie selon les communautés. Il y a eu des périodes où la règle était de dire tous les psaumes en une semaine. Nous, on dit la plupart des psaumes en 4 semaines. Vous voyez, ça c'est un peu fluctuant, c'est... Il n'y a pas de règle. Hein. Pourvu qu'on pense à Jésus de temps en temps, régulièrement. C'est ça.
Hein. Non, pas vous.
D'ailleurs, moi.
Oui, j'avais une question à poser. Les Juifs, par rapport aux psaumes, à l'heure actuelle, dans leur liturgie, c'est intégré c'est...
Eh bien, je ne suis pas bien capable de répondre, j'en sais rien. J'ai entendu un moine de la Pierre qui vire dire que les psaumes faisaient partie de la prière privée, hein, c'est-à-dire que les juifs ne chantaient guère les psaumes au temple. Ils les chantaient en pèlerinage quand ils marchaient, ils les chantaient à la maison, mais au temple ils ne chantaient pas les psaumes, dit ce frère Mathieu.
Moi, personnellement... Je peux témoigner de ce que j'ai entendu parmi certains jeunes pasteurs et pour qui les psaumes constituent le fondement de leur vie spirituelle personnelle.
Ah, oui.
Les psaumes. Oui.
Je reviens un petit peu à la question précédente. Moi, j'aime bien, au lieu, il est prévu qu'on dit 3 psaumes, hein, pour un office. Eh ben, j'aime bien n'en dire qu'un, mais le dire une fois, en le mettant sur les lèvres de nos ancêtres, les gens de l'Ancien Testament, de l'époque de Moïse, de je sais pas qui, de la déportation, l'époque. Redire le même psaume en le mettant sur les lèvres de Jésus. Redire le même psaume en le mettant sur les lèvres de une partie de la population d'aujourd'hui, ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, ceux qui voilà, de sorte de faire des liens avec nos pères dans la foi, avec Jésus et avec les contemporains. Et je trouve que les mots, par cet exercice-là, les mots prennent bien du relief.
Oui, sur l'importance actuelle des psaumes, hein, je voulais redire un mot de ce qu'a lancé l'Alliance biblique francophone française au printemps, la recopie manuscrite de la Bible. Et en fait, ça s'est fait à la recopie manuscrite des psaumes et du Nouveau Testament. Ça a donné lieu à un bel ouvrage illustré où chacun des auteurs et copistes s'est appliqué à la fois dans l'écriture et dans le dessin. Mais bon, ce qui me paraît en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est cette insistance sur... à côté du Nouveau Testament, ce qui évidemment pour les chrétiens est important, cette insistance sur les psaumes plutôt que sur le Pentateuque ou sur je ne sais quel autre livre public.
Il y a des commentateurs qui disent les psaumes c'est un résumé de la Bible. Si on veut, l'alliance, elle est dans les psaumes, la volonté de Dieu de sauver son peuple, c'est dans les psaumes. Le fait que il y a beaucoup de psaumes qui parlent du juste persécuté, bien, évidemment, ça nous met en présence de Jésus, etc., et de plein de frères aujourd'hui qui sont persécutés.
Oui, Voilà. Et il y a aussi quelques psaumes qui sont très difficiles à accepter dans leur violence.
Dans leur violence.
Oui. Et c'est tellement vrai que le pape Paul VI, quand on a refait, après le concile, quand on a refait nos livres, il avait demandé qu'on élimine un certain nombre de versets qui risquaient d'être mal compris. On pourrait difficilement comprendre qu'on dise à Dieu, comme dans le psaume 137, Babylone, que tes enfants soient jetés contre les rochers et leur tête écrasée contre les rochers. Voilà. Alors, il avait conseillé de supprimer ça. Dans nos livres, c'est encore comme ça. Les moines de la pierre qui virent, ils sont pas d'accord. Ils disent, il faut dire tout ça.
Exactement.
Leur argument, c'est que la violence existe. Elle est en nous. Et si on ne l'exprime pas, ouais. Elle reste en nous. Il faut dire, nos réflexes de violence, il faut les dire. Et puis, quand on dit à Dieu, extermine mes ennemis, d'une certaine manière, on est moins violent. Soi-même. On dit, mes ennemis, il faut les maltraiter, mais c'est pas moi qui vais m'en charger. Moi, je veux quand même pas m'en charger. Voilà.
Voilà, je veux pas vous raconter tout ce qu'on va dire à notre conférence, mais si jamais ça peut se faire au Temple Saint-Jean avec l'orgue, vous aurez droit aussi à un psaume, voilà. Je n'en dis pas plus, avec une musique, voilà.
De François Berry.
Oui, à propos de ces psaumes violents, je voulais aussi rappeler qu'il existe un petit livre dans les éditions du Moulin qui s'appelle Les psaumes interdits, qui est toujours du même Thomas Römer, dont je rappelle qu'il est professeur au Collège de France, et qui donc réfléchit à ces psaumes ou ces passages de psaumes particulièrement violents. La quatrième de couverture parle de quoi réconcilier notre foi avec la morsure des réalités quotidiennes. La violence étant la nôtre.
Il y a aussi un livre d'André Vénin, Psaume censuré.
Ça ressemble.
On ne voit pas devant le machin. Voilà. Hop, voilà, psaume censuré.
Et il me semble bien que frère Basile, qui aime beaucoup le psaume, avait fait une fois un samedi biblique sur ce thème.
Ah oui.
Il s'inspire beaucoup du livre de Paul Beauchamp sur les psaumes.
Ah oui, psaume nuit et jour.
Pour revenir à la musique. Bon, il y a beaucoup de compositeurs du XXe siècle et certainement du XXIe qui ont aussi pris comme sujet les psaumes. Bon, j'ai pensé là pendant la conférence à Stravinsky. Je ne sais pas si vous savez que Stravinsky a écrit une œuvre qui s'appelle La Symphonie des psaumes. Très très belle œuvre.
Il l'a dit.
Ah, il l'a dit.
Oui.
Voilà.
Et j'ai eu la joie de chanter la symphonie des psaumes à Vaison-la-Romaine pendant les chorales de À Cœur Joie en 1971 peut-être. Ouais.
Et moi en musicaux, je crois là.
Oui, dans la dernière du Bavière, il y a des psaumes qui ont été réécrits, j'en ai ton point de vue. Dans la dernière Bible Bayard, où on était un théologien et un poète en même temps, il y a des psaumes qui ont été réécrits.
Ah oui.
Est-ce que tu as regardé ton point de vue sur ça?
C'est-à-dire que à partir du moment où on cherche à exprimer notre foi sous forme de poème, c'est ouvert à tout le monde. Hein, tout le monde peut le faire, pourquoi pas. Hein. J'avais, je crois, dans ma bibliothèque un livre de... Comment est-ce qu'il s'appelait? Bon, un prêtre qui était très médiatisé il y a quelques années, ben il a nos psaumes habituels, mais il les a un petit peu donné des tournures un peu plus modernes, voilà.
Charles Singer, non?
Non, c'est pas Charles Singer.
C'est pas lui. Alors il y a un autre, il y a un.
Oui. Et alors.
André Sèvres.
Et c'est sûr que dans notre psautier, d'une certaine manière, c'est plus difficile d'accéder à un certain nombre de psaumes que d'accéder à l'évangile. Parce que l'évangile, c'est comment est-ce qu'il faut dire? Là, il y a plein d'allusions à des événements qu'on connaît plus. À moi Galade, à mon Manassé, Israël, le casque de ma tête. Le citoyen moyen, et il se demande de quoi on parle. Voilà. Dans les évangiles, c'est pas le cas. Donc, on éprouve le besoin de formuler le sens avec des mots plus qui éliminent toutes ces difficultés. Maintenant, les difficultés, les gens savants, ils savent en tirer parti, c'est ça aussi. Hein. Donc, il faut pas les mettre à la poubelle quand même. Je voulais dire, moi, ce que disait le frère... Oh là là, je perds les noms, hein. Marian. Marian à Chauvroche. Il disait, grâce au psaume, on peut dire à Dieu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut lui parler, disait le frère Marian, sans mettre une chemise blanche et une cravate. On peut faire à Dieu des reproches. On peut lui dire, pourquoi tu tolères que les méchants réussissent? Jusqu'à quand tu vas permettre qu'on soit piétiné par les voisins, etc. On peut faire des reproches à Dieu, et je trouve que ça, c'est très important. Quand j'étais je visitais les gens à l'hôpital à Montbéliard, je me souviens très bien d'une personne qui disait, oh là là, pourquoi je souffre? Pourquoi Dieu permet que je souffre? Je lui en veux et il permet que je souffre. Et puis tout d'un coup, il se reprenait en disant, mais je suis en train de blasphémer. Et moi, je pouvais lui répondre, vous blasphémez pas du tout. Vous êtes dans la ligne stricte des psaumes où on parle à Dieu de tout, sans mettre une chemise blanche et une cravate. Dans nos liturgies, on a des formules bien limées, bien polies, bien. Dans les psaumes, on dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est intolérable. Ça, on peut dire ça à Dieu. C'est dans les psaumes. C'est Dieu qui nous dit de le lui dire.
Ben oui, un grand merci. Je ne sais pas si sur Zoom, il y a une fonction qui fait comme ça.
Merci.
On peut.
Je n'ai pas compris.
Merci,
on peut tout dire. Merci voilà. Beaucoup, merci.
En tout cas, oui, merci d'avoir participé à ce cycle de conférences donc sur le thème de religion et musique.